20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, nous parlerons d'amour ce soir avec Marina Viotti. La mezzo-soprano célébrera la Saint-Valentin mardi prochain à Lyon et mercredi à Aix avec Jérémy Rorer et son cercle de l'harmonie. Et elle nous en dira quelques mots au micro tout à l'heure. Juste avant, nous nous intéresserons à la nouvelle production de l'Opéra de Paris, une découverte, Beatrice di Tenda de Bellini, avec notamment dans la distribution les frères Péné et Amitai Paty. Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour nous emmener en voyage cette semaine direction Amsterdam. Mais pour commencer, comme chaque soir, un coup d'œil sur les autres événements de l'actualité musicale. Simon Drattel vient d'être nommé chef invité du Philharmonique tchèque, de nouvelles responsabilités qui s'ajouteront à son mandat à Munich. Le chef anglais entretient, il faut le dire, une longue relation avec le Philharmonique tchèque, dont les enregistrements, notamment ceux réalisés avec Karel Hantscherl, ont bercé son enfance, a-t-il confié, un orchestre dont il a d'ailleurs été artiste en résidence la saison dernière. Le festival Beethoven à Bonn vient de dévoiler la programmation de sa prochaine édition, la 6e, qui se tiendra du 4 au 7 avril à la Lanterne Magique et dans la salle Saint-Nicolas des Hospices. Un festival dirigé par le violoncelliste Sun Wang-yang qui célébrera Beethoven, bien entendu, mais aussi Mozart, Schubert, Brahms, Dvorak et Janáček. Sans oublier la musique d'aujourd'hui avec une création mondiale d'une œuvre pour violoncelle et piano d'Eric Montalbetti. Des concerts de musique de chambre avec aux côtés de Sun Wang-yang, les pianistes Enrico Pace et Frank Bralé, la violoniste Lisa Ferschtmann, le clarinettiste Han Kim ou encore le quatuor Ardeo. Rendez-vous donc à Bonn du jeudi 4 au dimanche 7 avril et la billetterie vient d'ouvrir. C'est au musée Jean Couty que les concerts de la saison piano à Lyon se déploient en ce moment. S'y produiront lundi et mardi à 20h30 le jeune et formidable trio Métral qui réunit aujourd'hui dans sa nouvelle formation le pianiste Victor Métral, le violoniste Nathan Myrdel et la violoncelliste Laure-Hélène Michel. Ils étaient d'ailleurs venus nous voir il y a quelques semaines dans ce journal du classique. Alors ils joueront Schubert, Mendelssohn et Ravel lundi et mardi soir à Lyon. Ravel qui figurait au programme de leur récent album de musique française sortie sous le label La Dolce Volta, qui nous avait permis d'apprécier les si belles textures sonores que ces trois musiciens savent déployer dans ce répertoire si élégant et si sensuel. Quelques notes, le début du trio de Ravel par le trio Métral. Le trio Métral jouera Ravel justement, mais aussi Schubert et Mendelssohn, lundi et mardi soir à Lyon, au musée Jean Couty, dans le cadre de la saison Piano à Lyon.
L'Or Maison, sur Radio Classique.
Une entrée au répertoire de l'Opéra National de Paris cette semaine, dès demain, Beatrice di Tenda de Bellini, un ouvrage peu connu, quasiment jamais donné, composé entre Norma et les Puritains, donc l'un des derniers, l'avant-dernier même très précisément, de Bellini. Il s'inspire de la véritable et tragique histoire de Beatrice di Tenda, épouse du tyrannique duc de Milan, Filippo Visconti. Accusée à tort par son mari de sédition et d'adultère, elle sera soumise à la torture et condamnée à mort. Alors c'est Peter Sellars qui signe la mise en scène de cette nouvelle production et nous livre à cette occasion une réflexion sur les régimes autoritaires et leur emprise par la peur et la violence sur les êtres humains. C'est la soprano américaine Tamara Wilson qui incarne ici le rôle-titre, Queen Kelsley et son tyrannique époux, et puis ont été également réunis dans la distribution les deux frères Penné et Amitai Patti. Ils incarnent ici deux personnages, un seigneur italien et son fidèle complice, mêlés à un véritable triangle amoureux, comme on en trouve dans bien des ouvrages du répertoire italien. Alors, les deux frères, originaires des Samoa, étaient à notre micro en décembre dernier à l'occasion de leur venue à Paris pour un récital commun. Ils avaient évoqué cette production commune, qui marque d'ailleurs les débuts d'Amitai à l'Opéra National de Paris, et nous ont présenté à cette occasion leurs personnages respectifs. On les écoute.
Je chante Anikino, qui est un ami proche de Orombello. Penné joue le rôle d'Orombello. Je pense que je joue un rôle important parce que je dois le soutenir. Donc je parle beaucoup avec le roi, qui est chanté par Queen Kelsey, un ami à nous.
Il y a beaucoup d'opéras avec une histoire similaire, comme Roberto de Vereux, où il y a un ami qui finit par se retourner contre moi. Je suis amoureux de Béatrice, mais Agnès est amoureuse de moi. Donc il y a un croisement des objectifs amoureux. J'ai l'impression qu'il y a la même histoire dans beaucoup d'opéras, donc les gens comprennent facilement.
Et de chanter tous les deux dans une production d'opéra, qu'est-ce que cela signifie ? Quel plaisir !
Ça va être très marrant. On a toujours eu envie de chanter ensemble parce que ça retire une bonne partie du stress autour du travail en lui-même. Je trouve que c'est le plus important parce que j'aime me sentir détendu et savoir qu'il y a des gens que je connais dans la production, surtout dans une nouvelle production qu'on ne connaît pas très bien. Cela rend la représentation bien meilleure.
Je me demande quand était la dernière fois que deux frères ont chanté sur cette scène. Est-ce que c'est même déjà arrivé d'avoir deux frères dans la même production ? Donc je trouve que c'est super, surtout pour la première fois ici à Paris. Ce sera vraiment émouvant de pouvoir partager la scène avec mon frère.
Pietuare la sua vita, la sua fama, le vostre amare, pietà, pietà, pietà,
ma mi lascia,
pietare,
io mi lascia,
la sua vita, la sua fama, Agnese
Thank you.
Un duo entre Agnès et Orombello, alias Teresa Crantaler et Pene Patti, enregistré ici à l'occasion de la répétition générale de cette toute nouvelle production de Beatrice di Tenda de Bellini, production dirigée par Mark Wigglesworth et mise en scène par Peter Sellars, à découvrir dès demain et jusqu'au 7 mars à l'Opéra Bastille.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Elle célébrera l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Marina Viotti se produira mardi soir à l'Auditorium de Lyon et mercredi au Grand Théâtre de Provence à Aix avec Jérémy Rorer et son Cercle de l'Harmonie dans un programme intitulé Amour Furor, un programme contrasté de Gluck et Mozart jusqu'à Bizet et Saint-Saëns, réunissant quelques grands airs d'amour du répertoire opératique, mais des airs aussi bien tendres que furieux. Marina Viotti, que j'ai pu contacter il y a quelques jours, nous apporte justement son éclairage sur ce programme.
C'est ça, en fait, quand on m'a proposé un concert pour la Saint-Valentin, je voulais pas faire juste des grands airs d'amour, un peu, parce que pour moi, l'amour, c'est pas seulement toujours à l'eau de rose et facile. Et comme je suis mezzo-soprano, c'est vrai que souvent, quand même, les histoires d'amour avec les mezzo-soprano, à l'opéra en tout cas, c'est très tumultueux. Donc je me suis dit, je vais concocter un programme qui va montrer plusieurs facettes de la passion amoureuse, donc amor, furor, déjà parce que ça rime, et parce que je trouve que ça représente bien, en tout cas, le caractère de la mezzo-soprano et de l'amour à l'opéra. Donc on aura quand même des moments où c'est de l'amour très innocent et pur, comme avec Chérubin, avec Enrique Sapete, mais on aura aussi l'amour, la détresse, de la perte d'un amour avec Orphée. Et puis ensuite, on aura l'amour séducteur avec Carmen ou Dalila, l'amour jaloux avec La Favorite. Voilà, donc en fait, on va, je pense, parcourir comme ça un peu toutes les facettes de l'amour jusqu'au bis. Le bis, je peux pas dire ce que c'est parce que c'est une surprise, mais qui sera beaucoup plus joyeux quand même.
Vous chanterez donc des femmes amoureuses, mais aussi des hommes amoureux. En tant que mezzo-soprano, c'est vrai que vous avez l'habitude de ces rôles en pantalon, comme on dit, d'incarner des hommes sur scène. Est-ce qu'un homme amoureux, il est différent d'une femme amoureuse, vous qui fréquentez les deux?
Alors c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant quand on est mezzo, hein, c'est de pouvoir avoir justement ces différentes palettes de personnages à jouer sur scène avec justement des hommes ou des femmes, des fois des hommes déguisés en femmes ou des femmes déguisées en hommes. Donc c'est vraiment assez génial pour le jeu d'acteur. Et c'est vrai que souvent, en tout cas les jeunes hommes, hein, parce que c'était à ça que ça servait à l'époque, de faire chanter une femme le rôle d'un jeune homme pour se différencier d'un homme mûr, donc plutôt un adolescent. Et du coup, ce sont souvent justement des amours un peu plus purs, comme chez Rubin, le côté un peu innocent de l'amour, le côté un peu fougueux aussi, guerrier, comme dans Semiramide, Arsace par exemple, ou Octavian dans Le Rosenkavalier. Mais ce sont souvent des personnages masculins, beaucoup moins finalement ténébreux ou jaloux que les femmes mezzo à l'opéra. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, c'est vrai que la première partie, c'est principalement, je crois même exclusivement, que des hommes que je chante.
In colpo sangue.
Un air de Roméo et Juliette, ou plutôt des Capulet et Montaigu de Bellini, chanté ici par Marina Viotti dans cet enregistrement avec les talents lyriques de Christophe Rousset. Marina Viotti qui n'incarnait donc pas Juliette, mais bien Roméo. Alors elle ne chantera pas que des hommes, mais mettra également à l'honneur, dans le cadre de ses concerts de la Saint-Valentin, de grandes amoureuses. Parmi elles, Dalila et Carmen. Carmen avec laquelle Marina Viotti a fait ses débuts récemment en concert et qu'elle chantera pour la première fois au mois d'avril dans une production scénique à Zurich. Un personnage dont elle aime tout particulièrement la liberté, comme elle me l'a confié.
Pour moi, c'est une des rares femmes dans l'histoire de l'opéra, dans les histoires qu'on raconte à l'opéra, qui est libre, qui va choisir son destin, qui va choisir de mourir libre plutôt que de céder à un chantage et à une jalousie, qui veut vivre l'amour comme elle l'entend, qui peut-être n'est pas forcément un personnage toujours sympathique, parce qu'elle est quand même dure dans ses mots avec Don José, mais qui justement est une femme indépendante, libre, et moi ça me plaît et je trouve que c'est important d'avoir ce genre de personnage aussi à l'opéra. C'est pas toujours des femmes qui vont être victimes de leur destin, qui vont mourir d'une maladie, victimes des hommes. Sans vouloir faire la grande féministe, mais je trouve que c'est important qu'on ait ces personnages-là. Et je pense aussi que c'est important comment ces personnages sont représentés après sur scène. Parce que j'ai vu quand même beaucoup de Carmen qui étaient représentées un peu comme des femmes un peu vulgaires. Et du coup, on perd toute la force du personnage. Donc je suis vraiment, j'ai hâte de faire cette première Carmen. Et toutes les facettes de ce personnage, ce côté fier, ce côté libre, ce côté joueur, le côté de la séduction, le côté aussi... de la peur, parce qu'elle a quand même peur, elle le dit, elle dit je ne céderai pas, mais elle sait qu'elle va mourir quand même, donc il y a tellement de sous-textes, et je me réjouis vraiment, en plus c'est ma langue maternelle, donc c'est toujours agréable de chanter en français. Donc voilà, c'est un personnage que j'attends depuis longtemps, et je suis vraiment impatiente de le mettre dans mon corps et de pouvoir le rendre sur scène maintenant.
Voilà, donc ce sera prochainement, en avril, à Zurich. Et Dalila, qu'en est-il de ce personnage? Est-ce que vous l'avez déjà chanté, Dalila?
Non, Dalila, c'est pour dans plus longtemps, je pense. C'est encore un peu tôt, parce que ça fait partie du répertoire presque déjà un peu lyrique dramatique. Bien sûr, pour moi, c'est les airs de Dalila, ça fait partie des plus beaux airs de mezzo, notamment Mon cœur s'ouvre à ta voix, qui est quand même un grand tube et que j'adore chanter, que j'ai déjà chanté, notamment l'histoire de la musique, et que je rechanterai souvent. Et c'est un personnage différent, parce que là, pour le coup, alors sans l'avoir chanté vraiment, je l'ai pas étudié en entier, mais je connais l'histoire et je connais ces airs-là où il y a toujours ce côté dans la voix, dans la musique, très séducteur, mais qui cache en fait une volonté de pouvoir, une volonté de... qui cache pas forcément un vrai amour. Il y a quand même du mensonge, il y a quand même de la trahison. Donc c'est quand même un personnage très ambivalent et qui sera très, du coup, très intéressant à jouer entre la sensualité, le pouvoir et la jalousie, etc. Enfin, tous les autres aspects d'une passion amoureuse.
Alors, les femmes et les hommes amoureux, vous en avez incarné et vous en incarnerez bien d'autres sur scène. Finalement, l'amour, c'est le thème récurrent de votre vie de chanteuse, Marina Viotti.
C'est vrai que des fois, je veux faire des programmes de récital différents. Je me dis de quoi on pourrait parler, mais en fait, je pense que c'est le thème récurrent de la vie humaine, en fait, hein, tout simplement. L'amour, la connexion à l'autre... les sentiments, l'émotion, c'est ce qui nous distingue, ce qui nous caractérise en tant qu'humain, je pense. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même souvent la thématique d'un opéra. Il y a quelquefois des opéras peut-être plus politiques ou des opéras qui ont des thématiques un peu différentes, peut-être sur l'honneur, peut-être sur l'amitié. Par exemple, là, j'ai regardé Les Pêcheurs de Perles avant-hier. C'est peut-être plus sur l'amitié que sur l'amour, cet opéra. Et c'était assez intéressant, mais c'est vrai que souvent, ça reste le thème. Et heureusement, on s'en lasse pas, quoi, parce qu'il y a tellement de facettes et tellement de problématiques liées finalement à l'amour que Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une thématique qui va parler à tout le monde et qui va permettre à cet art de survivre pendant encore des millénaires, j'espère.
J'aime tes yeux, j'aime ton front, oh ma rebelle, oh ma farouche. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche, oh mes baisers s'épuiseront. J'aime ta voix, j'aime l'étrange grâce de tout ce que tu dis.
Une chanson d'amour de Gabriel Fauré par Marina Viotti avec le guitariste Gabriel Bianco. Marina Viotti qui chantera donc l'amour au masculin et au féminin mardi 13 février à l'Auditorium de Lyon et mercredi 14, le soir de la Saint-Valentin, à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence avec Jérémy Rorer et son Cercle de l'Harmonie.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors c'est à Amsterdam que vous nous emmenez cette semaine.
Oui, absolument. Et si on évoque le nom du chef d'orchestre finlandais Klaus Mäkelä, on pense sans doute, quand on est français, à la très belle route que ce jeune maestro trace depuis quelques années avec l'Orchestre de Paris. Mais une autre maison ô combien prestigieuse, maison européenne, s'est attachée cette personnalité musicale qui est devenue incontournable, comme on dit. C'est le Concertgebouw d'Amsterdam et c'est là où nous allons ensemble ce soir. Depuis hier, ce soir et encore demain, une série de concerts illustre ce compagnonnage avec un programme qui promet beaucoup, jugé plus tôt, la poignante musique funèbre maçonnique de Mozart, une page extraordinaire et qu'on joue finalement pas assez souvent vu son extraordinaire beauté, le concerto pour clarinette du même Mozart avec Olivier Patay, clarinette solo de l'orchestre, qu'il interprétera d'ailleurs dans sa version originale pour clarinette de basset, un instrument aux sonorités plus graves, plus mélancoliques, plus ombreuses, donc ce sera une belle découverte pour le public. Et puis ces deux pages inoubliables sont mises en regard, en miroir même, avec l'adagio de la 10e symphonie de Mahler, et on va y revenir, mais signalons aussi que demain vendredi, le dernier concert proposera une pièce de la compositrice Betsy Jolas, intitulée Latest. Cette compositrice franco-américaine née en 1926 et c'est une première pour les Pays-Bas.
Alors Emmanuel, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cet adagio de la 10e symphonie de Mahler, dont le destin, je crois, est assez étonnant?
Absolument. Mahler acheva en effet 9 symphonies. 9, on dit bien que c'est un chiffre qui est longtemps resté fatidique après la 9e de Beethoven. Schubert n'alla pas au-delà, il est mort très jeune bien sûr, mais de 9 symphonies, Bruckner de la même manière. Et Mahler écrivit le début, enfin l'esquisse d'une 10e symphonie, mais qui fut interrompue par sa mort. Et reste en réalité exécutable en concert, uniquement le premier mouvement adagio, même si des tentatives d'édition complète ont été réalisées à partir des esquisses de l'ensemble de l'œuvre. Mais vraiment, c'est cet adagio seul qui fait régulièrement l'objet de concerts, et à chaque fois, l'auditeur est frappé par son aspect insaisissable, étrange, mystérieux, par des armes l'harmonie qui s'installe pour aussitôt se dérober par un climat qui tantôt est pesant et tantôt au contraire totalement éthéré. Et Klaus Mäkelä a choisi ce soir et demain de donner la version achevée en 1924 par un autre chef qui a marqué le destin du Concertgebouw d'Amsterdam, c'est Willem Mengelberg, et qui avait signé cette version de l'Adagio en 1924. Elle avait été créée d'ailleurs cette version à la demande d'Alma Mahler, la veuve du compositeur, mais après avoir été donnée en 24, elle n'a rarement été remise sur le pupitre, peu d'ailleurs. Il a fallu attendre que Jaap van Zweden la reprenne en 2019 et 2020, et notamment avec l'orchestre du Concertgebouw. Donc on voit que vraiment l'orchestre est très lié à Mahler et à cet Adagio. Et on imagine que cette option, Mengelberg, tout comme le choix d'interpréter, on l'a dit, le concerto de Mozart sur son instrument d'origine, cette clarinette de Basset, fera l'objet de discussions avec le public tout à fait intéressantes, puisque demain, les artistes feront un bord de scène, une rencontre avec ceux qui le souhaitent, à l'issue du concert. Donc pour terminer ce petit cycle, une rencontre avec Klaus Mäkelä et le clarinettiste. Et donc bien sûr, on se quitte en musique avec Mahler, la dixième, et on continue à célébrer la disparition, l'anniversaire de la disparition de Claudio Abbado, puisque c'est lui qui est à la baguette.
L'Adagio de la 10e symphonie de Mahler, avec ici l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. 10e symphonie de Mahler qui résonnera donc à Amsterdam, sous la baguette de Klaus Mäkelä. Amsterdam, où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci beaucoup pour ce voyage.
Alors.
Et à la semaine prochaine. Merci à Charlotte Tourlassalle pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Louis Noël Bestion de Camboulas, le chef de l'ensemble Les Surprises, qui nous parlera du célèbre Te Deum de Charpentier et du beaucoup plus rare Te Deum de Desmarais. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.